Et j'aborde au début, en quelques mots, un saint anglais, saint Alban, qui a été martyrisé au temps de l'empereur Dioclétien, encore un autre, et qui s'est livré lui-même, en changeant d'habit, à la place d'un clerc qu'il avait recueilli dans sa maison, et duquel il avait reçu les enseignements de la foi chrétienne. Et alors, pour ce motif, il a subi la flagellation, des tourments atroces, il a été décapité. Ça nous rappelle Maximilien Kolbe, ce franciscain qui a donné sa vie durant la dernière guerre et qui est très connu maintenant puisqu'il a été canonisé peu de temps finalement après sa mort. Un des soldats qui menait Saint-Alban au supplice s'est même converti en chemin. Il a souffert avec lui, puis a été transpercé d'un glaive et il a mérité d'être baptisé dans son sang. Baptisé dans son sang, ça veut dire, je me souviens, on nous apprenait ça quand j'étais jeune, il y avait le baptême d'eau, que nous recevons pour la plupart d'entre nous, évidemment. Le baptême de désir, c'est quelqu'un qui souhaite devenir chrétien et qui n'arrive pas à recevoir le baptême et qui meurt avant. Et le baptême de sang, c'est celui, comme ce soldat, qui a donné sa vie pour sa foi sans avoir été baptisé. Alors, saint Bède le Vénérable a décrit les combats qu'a soutenus pour Dieu saint Alban et son compagnon, et c'est survenu, ça y a déjà très très longtemps, en l'an 287. D'autre part, je vous signale rapidement que à Samarie, en Palestine, vous savez, on parle des Samaritains, au nord de Jérusalem, là. Bien, 1480 martyrs d'un seul coup, qui ont été mis à mort pour la foi au Christ par le roi des Perses, un roi de l'Iran d'aujourd'hui, Chosroas, c'est arrivé vers 625. D'autre part, je voudrais vous parler, comme vous voyez, on pourrait raconter l'histoire de ces saints, mais il y a si longtemps qu'on peut venir aussi à un saint qui a été martyrisé au tout premier siècle. Et c'est rare que je vous parle de ces saints-là, mais celui-là, on a des documents très sérieux qui sont écrits par des auteurs païens, en particulier Suétone, dans son livre intitulé « Domitien », c'est au chapitre 15. Et puis, il raconte que l'empereur Domitien tua avec le plus léger des soupçons son cousin, Flavius Clemens, homme dont on méprisait fort l'inertie. Je vous expliquerai pourquoi Suétone, qui est un païen, parle de Flavius Clemens comme étant quelqu'un qui était inerte. Et Suétone ajoute, Clemens, ce saint, venait à peine de sortir du consulat. Or, il est mort en l'an 96, et c'est ce Flavius Clemens, un des grands saints du premier siècle. Très, très peu connu aujourd'hui. Mais je trouve que ça vaut la peine d'en parler quelques minutes. Un auteur païen aussi, Dion Cassius, qui écrit dans son histoire romaine au livre 67, au chapitre 4, vous voyez, il y a des sources sérieuses. Il écrit ceci, « Domitien, l'empereur, fit mourir Flavius Clemens, qui était alors consul, bien que ce personnage fût son cousin, et qu'il eut pour femme, pas n'importe qui, Flavia Domitilla, sa parente, à lui, à l'empereur. » L'accusation d'athéisme, continue cet auteur païen, fut portée contre eux deux. Athéisme, c'est-à-dire qu'ils refusaient les dieux de l'ancienne Rome. Donc, ils étaient athées à leurs yeux. Et l'auteur continue, de ce chef furent condamnés beaucoup d'autres citoyens qui avaient adopté les coutumes juives. On appelle ça des coutumes juives, c'est-à-dire, au fond, les coutumes chrétiennes. Car les premiers chrétiens, rappelons-le, étaient des juifs. L'auteur termine en disant « Les uns furent mis à mort, les autres virent confisquer leurs biens. » Alors, l'impression là, des termes qu'emploie Suétone, puis l'autre d'ailleurs aussi, Don Cassius, c'est, on voit bien qu'ils sont pas au courant de la religion chrétienne, c'est tout début, mais on devine que l'empereur Domitien reprochait à ce grand homme extraordinaire Flavius Clemens et à sa famille d'être disciple du Christ. Le christianisme avait, dès avant la fin du premier siècle, pénétré dans la famille impériale elle-même. Ça nous rappelle que le catholicisme a failli pénétrer la famille impériale de Chine. Vous savez que le fils de l'empereur, s'était convertie. Et c'est l'impératrice qui a persécuté alors les jésuites. Et un peu plus, puis la cour de Chine se convertit. Un peu plus, la Chine était catholique aujourd'hui. Ça risquait, c'était tout près. On parlera un jour de tout ça. C'est très, très intéressant, la quasi-conversion de la Chine. Alors donc, là, c'est la famille impériale qui devient en partie chrétienne. Et Flavius Clemens était cousin germain de l'empereur Domitien. Et sa femme, qui fut exilée, était, elle, la nièce de cet empereur. On a les preuves de tout ça. Cette famille si élevée devait disparaître, d'ailleurs, en cette année 96, lors du martyre de ses saints. L'empereur Domitien n'avait pas de plus proche héritier mâle que les fils de Flavius Clemens, mais à sa mort, personne n'a pensé à les lui donner pour successeur. Alors, était-il chrétien? C'est possible, mais on n'est pas sûr de tout ça. Alors, on peut affirmer que Flavius Clemens était baptisé et pas seulement sympathique aux chrétiens. On aurait plutôt tendance à pencher pour une vraie conversion. Et le mot de Suétone, homme dont on méprisait fort l'inertie, mais ça s'explique ainsi. Ça nous rappelle que la vie publique à Rome était pratiquement interdite aux chrétiens. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui s'affiche ouvertement comme chrétien dans notre société n'est pas très très bien reçu, en tous les cas, dans les moyens de communication ordinaires. C'est pas facile. C'est le retour des choses. Et tous les actes étaient imprégnés de paganisme dans cette Rome. Les gens étaient obligés de vivre dans l'effacement, puis loin de la religion officielle, quand ils étaient chrétiens. Ils étaient vite considérés comme des athées, comme je viens de vous le dire, parce qu'ils faisaient profession, disait-on, de tristesse. Parce qu'ils s'amusaient pas comme les autres à avoir toutes sortes de jeux invraisemblables. Et de plus, pour les Romains du 1er siècle, eh bien, un homme qui avait des sentiments d'humanité et qui craignait de répandre le sang était un lâche. C'était un lâche. Ça rappelle, sous le régime nazi et sous le régime communiste, tous les gens qui nous viennent derrière le rideau de fer ont connu ça. Alors, impie, lâche, traître, même autant de qualificatifs qui étaient appliqués aux chrétiens, comme aujourd'hui, considérés comme des personnages peu intéressants. Alors l'empereur Domitien, qui détestait les religions orientales et aimait punir, a voulu frapper tous les suspects. Alors il n'a pas épargné son cousin Flavius Clemens, qui fut exécuté en 96, puisqu'il était consul. Il était consul, c'était un poste extrêmement important, en 95. C'est aussi aujourd'hui la fête de Saint du Bienheureux, ou de Saint John Fisher. C'est un des plus merveilleux saints, c'est l'un des plus attachants saints. C'est un saint anglais. Il était évêque de Rochester, il a été nommé cardinal alors qu'il était en prison, puis il a été martyrisé en l'an 1535. 1535, c'est le début de l'anglicanisme. À 14 ans, ce jeune John Fisher a quitté le comté d'York et chevauchait vers Cambridge. Il venait de terminer ses premières classes dans une école de grammaire annexée à l'église de Saveley. Puis, les jeunes garçons d'Angleterre quittaient ainsi la maison paternelle pour aller étudier dans les universités. Et, on fait ça ici. Vous avez les gens de Gaspé vont quitter la maison paternelle pour aller étudier à Québec. Et alors, les jeunes s'engageaient par les routes, en un voyage qui était souvent long, très aventureux, au hasard des rencontres. Ils faisaient compagnie, ils échangeaient des projets, ils dormaient dans des auberges, ce n'étaient pas des voyages très rapides comme aujourd'hui. Et alors, Cambridge était un centre de doctrine catholique, au temps de la jeunesse de John Fisher. Et John Fisher y apportait un intérêt très prononcé pour l'étude. Il avait un bon cœur, une jeunesse pure. Il est devenu rapidement bachelier et maître essor, et la passion de connaître l'a jamais quitté. Le grec ne s'enseignait pas alors. Alors il l'apprendra plus tard, à 48 ans, c'est assez extraordinaire. Il a même entrepris l'hébreu à 55 ans. C'est un homme exceptionnel. Il n'a pas cessé de protéger les lettres. Sa bibliothèque, d'ailleurs, a été une des plus fameuses de l'Angleterre, et peut-être même de toute l'Europe. Et son influence a resplendi au point que Erasme, le fameux savant, a déclaré « John Fisher est un homme à qui personne ne peut être comparé pour la sainteté de sa vie et sa grandeur d'âme. » Il y a 25 ans, John Fisher a été ordonné prêtre. Il a été nommé chancelier de Cambridge. Il en a été le bienfaiteur. La mère du roi l'a choisi pour confesseur. Le roi Henri VIII a subi son ascendant. Il a même nommé précepteur de ses fils. Il l'a désigné pour le concile de Latran, où Erasme l'a accompagné comme théologien. Puis en 1504, John Fisher est sacré évêque de Rochester. C'était l'église la plus misérable du royaume. Il s'y est attaché de toute son âme. Et il assure qu'il ne changerait pas sa pauvre épouse, son diocèse, contre la plus riche veuve d'Angleterre, disait-il. Eh bien, de l'humour. Il vit austèrement, il porte même le cilice, il se donne la discipline, c'est un évêque exceptionnel. Hein. Il est voué à la charité, à l'étude. Il a publié des ouvrages d'une profonde science. Il a lutté contre Luther, contre les thèses de Luther, et il sent que le Saint-Esprit remplit l'Église. C'est autour de lui qu'on Henri VIII obtient du pape le titre défenseur fidèle, défenseur de la foi, en 1523. Et Fisher était depuis 30 ans évêque quand Henri VIII, voulant divorcer d'avec Catherine d'Aragon pour épouser sa dame d'honneur Anne de Boleyn, ben, a exigé le consentement de l'Église. Alors là, des courtisans serviles ont conseillé, pour rester en paix, de transiger selon le bon plaisir du roi. Mais John Fisher, lui, n'entendait qu'une seule voix. C'était celle qui dicte dans la conscience ce que Dieu permet et ce que Dieu défend. Alors, il a évoqué l'exemple de Saint-Jean-Baptiste, dont ce sera la fête samedi. Il a déclaré que le mariage royal ne pouvait être dissous par aucune puissance divine ou humaine, et pour défendre cette opinion, il sacrifierait même sa vie. Sachant, John Fisher, que ses prises de position risquaient de lui obtenir d'avoir la tête tranchée, mais savez-vous ce qu'il a fait? C'est assez extraordinaire. Il a mis dans sa chapelle, sur l'autel, une image de la tête tranchée de Saint-Jean-Baptiste. Il n'allait pas de main morte. Et il faut dire qu'il y a de très belles icônes grecques ou russes qui nous présentent Saint-Jean-Baptiste. Tenant dans un plat sa propre tête. C'est des icônes très curieuses, mais très belles, au fond. Elles sont très, très belles. Alors, on cherche peut-être autour de lui à le séduire. On allègue qu'il manque pas d'hommes respectables pour céder aux caprices du roi. Mais John Fisher, l'évêque John Fisher, ne connaît pas de compromis. Il dit, les autres ont leur conscience et moi j'ai la mienne. Que la leur les sauve si elle peut. Moi, c'est la mienne qui me sauvera. Et je sens jusqu'au fond de moi-même que je dois la suivre. Il suit si bien sa conscience qu'il est envoyé à la prison de la Tour de Londres. Il habite 14 mois, une cellule froide, abominable, dans des vêtements usés, lui qui est évêque. Il est en proie de douloureuses infirmités. Et dans ce dénuement, il écrit un traité sur la consolation spirituelle. C'est un des plus beaux livres spirituels. Ses biens sont saisis. On a forcé un meuble fermé à clé dans son oratoire. Il contenait quoi? Eh bien, simplement un cilice et des disciplines, c'est-à-dire des fouets. C'est curieux, hein? Toujours cette pratique de la pénitence qui existait tellement à cette époque, hein? Des évêques tâchent encore de le fléchir, alors il répond « La forteresse est trahie par ceux-là qui devraient la défendre. » Il est très attaché, en somme, à l'Église de Rome. Hein. Ce n'est pas, je ne dis pas ça pour accuser les Anglicans, loin de là. Les Anglicans que je connais sont pour la plupart profondément sincères et souvent d'excellents chrétiens. Je crois qu'il y a même de très grands saints chez les Anglicans, il y en a eu. Il y en a. Et Henri VIII, auquel le pape a refusé le divorce, déclare qu'il se réfère aux idées nouvelles du protestantisme, quoi. Et désormais, l'Église d'Angleterre n'aura plus d'autre chef que lui et ses successeurs. Et le peuple et le clergé ont laissé retentir là un cri d'assentiment absolument étonnant en criant « Le roi est le chef de l'Église ». Alors, Mgr Fisher puis son ami le chancelier Thomas More, qui était fidèle à la foi de l'Église, ben, on continuait à tenir tête à ceux qu'ils considéraient comme des traîtres. Alors, le pape a béni la constance de John Fisher et le crée cardinal en prison. Alors, le roi est enragé par ça. Il écrit « Quand le chapeau arrivera, il n'y aura plus de tête pour le porter ». Pourquoi dit-il « Quand le chapeau arrivera » C'est que les cardinaux, à l'époque, recevaient de grands chapeaux rouges avec des glands qui pendaient. Aujourd'hui, on parle d'une barrette rouge. Les rites sont changés. Et il a déclaré, Henri VIII, que Fisher était coupable du crime de haute trahison. Alors, il a été amené au tribunal et John Fisher a écouté sa condamnation à mort. Il a répondu par des mots de miséricorde. Il a simplement dit « Je prie le Seigneur d'accorder à sa majesté la grâce de se repentir et d'écouter mes bons conseils pour son salut, pour celui du royaume et pour la paix de la chrétienté. » Alors, il a été reconduit à la Tour de Londres, il est escorté de soldats armés. Il a tracé le signe de la bénédiction sur la foule qui pleurait, qui s'agenouillait. On dit que son air était si aimable et heureux qu'on aurait pu croire qu'il participait à une fête. Et Thomas More lui dit, mais qui était emprisonné aussi, qui était chancelier d'Angleterre, l'homme le plus important du royaume, Thomas More est mort aussi, et on le fête aujourd'hui en même temps que John Fisher. Il a dit à John Fisher, « Monseigneur, nous nous retrouverons au ciel. » Et 4 jours plus tard, John Fisher a retiré son cilice, il l'a fait remplacer par une belle chemise blanche, il a demandé d'être revêtu de ses plus riches habits, et pour rencontrer Dieu, quoi. Il a recommandé de les brosser avec grand soin. Et là, le serviteur s'est étonné d'un tel souci en ce moment tragique. Alors lui, il a répondu, « Et quoi, ne sais-tu pas que c'est aujourd'hui le jour d'une heureuse alliance et qu'il faut que je me pare avec plus de splendeur pour la solennité de mon mariage? » Il considérait sa mort comme un mariage. Alors il a pris en main le Nouveau Testament, il a franchi le seuil de son cachot et la dernière enceinte de la Tour de Londres, il y a eu un arrêt, là, en attendant le shérif. Et John Fisher a ouvert le Nouveau Testament, puis il a lu « La vie éternelle consiste à te connaître, toi seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, ayant accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Que c'est beau, hein? Et alors, le martyr a franchi les degrés de l'échafaud, si vivement que les assistants, le voyant faible et débile, se sont étonnés d'un tel élan. Alors, rendu en haut des marches, il a paru décharné, squelettique, mais sa voix s'est faite forte et claire pour rendre grâce à Dieu et réclamer les prières du peuple. Puis, il a imploré pour le roi et pour le royaume la miséricorde de Dieu. Et alors là, il a récité le Te Deum. Te Deum laudamus, nous te louons, Dieu. C'est un très beau chant. Et il s'est laissé bander les yeux par le bourreau, et sans cesser ses invocations, il a appuyé le front sur le bio, là. Puis le bourreau lui a tranché la tête le 22 juin 1535. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était aussi la fête de Saint Thomas More. Mais Saint Thomas More, n'est-ce pas, il faut en dire un mot, tout le monde le connaît. Qui n'a pas vu ce beau film qui est passé souvent à la télévision, mais qui l'a pas vu, surtout dans un cinéma sur grand écran, c'est tellement beau, « A Man for All Seasons ». C'est un film anglais, c'est les Anglais qui ont fait ce film, sur ce grand Saint Thomas More qui s'est opposé à Henri VIII, qui était l'homme peut-être le plus cultivé de son temps, non pas seulement en Angleterre, mais en Europe avec Erasme. Et par sa vie, par son œuvre, un Thomas More est à la fois l'acteur puis le témoin des grandes mutations qui sont intervenues au début du 16e siècle avec le protestantisme, l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane. Il est né, lui, en 1477. Il a reçu une éducation extraordinaire. Il est devenu avocat. Puis il est devenu, après avoir été membre du Parlement, avocat des marchands de la City, du cœur de Londres, là. Et il a été maître des requêtes, il a été membre du conseil privé du roi. Puis finalement, il a obtenu la plus haute charge de tout le royaume. Il est devenu chancelier du royaume. C'est pas des farces. C'était un homme extraordinaire. Hein. Et il était un admirateur de Pic de la Mirandole, dont il faudra parler un jour. Puis il lisait les Pères de l'Église. Il a suivi à Oxford les cours d'un grand exégète, John Collett. C'était un des plus grands érudits de son temps. Il a écrit L'Utopie, un ouvrage très important qui a eu un retentissement énorme sur l'espèce de rêve qu'on peut se faire. Le rêve utopique d'une société merveilleuse où les gens vivraient dans l'harmonie. Et puis, quand Luther a publié ses 95 thèses en 1517, ça a marqué le début, ça, des luttes religieuses qui ont déchiré l'Europe, et l'Angleterre a été imprégnée par les idées nouvelles. On a accueilli favorablement les écrits de ce réformateur, et le roi Henri VIII a tenté d'abord de s'y opposer, plutôt. Il s'est opposé à Luther, lui, par un traité sur les sept sacrements. Ce traité sur les sept sacrements a mérité à Henri VIII le titre qui lui est venu du pape, parce qu'il était catholique, Henri VIII, à ce moment-là, de défenseur fidèle, défenseur de la foi. Alors là, la critique de l'Église romaine, de l'Église catholique, s'est amplifiée. Et Thomas More a été chargé, donc, par le roi de répondre aux réformés. Et c'est là que Henri VIII a reçu encore des hommages du pape. Et puis, c'est là qu'il l'a nommé grand chancelier du royaume en 1529, quelques années à peine avant le grand schisme de l'Église d'Angleterre, qui s'est séparé de l'Église catholique romaine. Et alors là, le roi était en conflit, n'est-ce pas, tout le monde sait, au sujet de son mariage. Il a voulu divorcer, obtenir une annulation de mariage. Il ne l'a pas obtenu. Et Thomas More s'est opposé au roi. Et il a démissionné de sa charge de chancelier quand il a vu que Henri VIII se donnait le titre de tête suprême de l'Église d'Angleterre. Et un an plus tard, Henri VIII a obtenu son divorce. Il a épousé Anne Boleyn. Il a imposé à ses sujets de prêter un serment par lequel il reconnaissait comme seul héritier légitime du trône d'Angleterre les enfants qui naîtraient de la nouvelle union. Alors Thomas More, qui n'a pas voulu assister au couronnement d'Anne Boleyn, mais il est convoqué en 1534, le 13 avril. Alors là, il refuse le serment. Il précise son opposition. Mais son opposition ne vise pas, dit-il, la légitimité de la succession, mais la reconnaissance du roi comme chef suprême de l'Église chrétienne d'Angleterre. Alors, il est emprisonné, lui aussi, dans la tour de Londres, où était emprisonné John Fisher. Il écrit alors de nombreuses lettres et des prières inspirées par la lecture des psaumes. Et puis, il médite à travers la passion de notre Seigneur sur le sens de la souffrance et de la mort. Il a rédigé, Thomas More, un ultime ouvrage intitulé « Dialogue le dialogue du réconfort dans l'épreuve »,« Dialogue of Comfort Against Tribulation ». Et là, le 6 juillet 1535, il meurt sur l'échafaud. Il se déclare « the king's good servant, but God's first », ce qui veut dire « bon serviteur du roi, mais de Dieu d'abord ». Et c'est pas sans un ultime et étonnant dialogue avec ses bourreaux. Il est frappé au sceau de l'humour anglais et de la sagesse humaniste. Il part de petits billets. Le prisonnier réconforte sa famille, sa femme, ses enfants, en particulier une de ses filles. Il termine une lettre à sa fille par ces paroles très curieuses. « Ma lettre est écrite au charbon, par votre père, qui vous aime tendrement, ma chérie, qui dans ses pauvres prières n'oublie aucun de vous, ni vos petits-enfants, ni vos nourrices, ni vos bons maris, ni davantage la méchante femme de votre père. » Il aimait beaucoup sa femme. Il l'appelle la méchante femme parce qu'elle essaie un peu de le faire se soumettre au roi. Hein? Puis il dit « ni aucun de nos autres amis. » Et ainsi, portez-vous bien, car je manque de papier. Thomas More, chevalier. Nous revenons maintenant à Thomas More pour conclure. car il faut bien raconter un petit détail. Au moment de son exécution, Master Pope, qui s'occupait de l'exécution, lui dit le bon plaisir du roi, vous prie qu'à votre exécution, vous ne prononciez que peu de mots. Alors le chancelier d'Angleterre, Saint Thomas More, répond, « Master Pope, vous faites bien de m'avertir du désir de Sa Majesté, car je me fusse proposé, sinon de parler quelque peu à ce moment-là, sans rien dire toutefois qui pût donner offense à Sa Majesté ni à quiconque. Néanmoins, quelle qu'ait été mon intention première, je suis tout prêt à me conformer docilement au commandement de Sa Majesté. » Et je vous supplie, bon Master Pope, d'intercéder auprès d'elle pour que ma fille Margaret puisse assister à mon enterrement. Alors Master Pope lui dit, le roi a déjà consenti que votre femme, vos enfants et vos amis aient la liberté d'y assister. Et Thomas More répond, oh combien je suis obligé envers Sa Majesté d'avoir daigné disposer si gracieusement de mon enterrement. Il est absolument étonnant. Alors, Master Pope, en prenant congé de lui, ne put se retenir de pleurer. Ce que voyant, Sir Thomas More le réconforta en ces termes, dit-on, « Calmez-vous, bon Master Pope, ne vous affligez pas, car j'ai confiance de Sa Majesté, et je vous supplie, bon Master Pope, d'intercéder auprès d'elle pour que ma fille Margaret puisse assister à mon enterrement. » Alors Master Pope lui dit, « Le roi a déjà consenti que votre femme, vos enfants et vos amis aient la liberté d'y assister. » Et Thomas More répond, « Oh, combien je suis obligé envers Sa Majesté d'avoir daigné disposer si gracieusement de mon enterrement. » Il est absolument étonnant. Alors Master Pope, en prenant congé de lui, ne put se retenir de pleurer. Ce que voyant, Sir Thomas More le réconforta en ces termes, dit-on, « Calmez-vous, bon Master Pope, ne vous affligez pas, car j'ai confiance que nous nous verrons à grande liesse, à grande joie au ciel, où nous serons assurés de vivre ensemble et de nous aimer dans la joie et la félicité éternelle. » Et au moment de son exécution, il a été mené par le Master Lieutenant, le Master Lieutenant, là, en dehors de la tour, puis à l'endroit où il devait être exécuté. Alors là, montant sur l'échafaud qui branlait de telle sorte qu'il semblait sur le point s'écrouler, alors il dit gaiement à ce lieutenant, « Je vous prie, Master Lieutenant, de m'aider à monter. Pour ce qui est de descendre, je m'en tirerai bien tout seul. » Il y a de l'humour jusqu'à sa mort. Hein? Et puis, il dit au bourreau d'un air joyeux, juste avant de mourir, « Rassemble ton courage, mon brave, et n'aie pas peur de faire ton office. Mais j'ai le coup très court. Aussi, prends garde de ne pas frapper à côté, car il y va de ton honneur. » Et c'est ainsi que Sir Thomas More est passé de ce monde à Dieu le jour même qu'il avait le plus désiré de le faire. Il est mort avec une qualité d'âme que raconte son gendre William Roper dans La vie de Sir Thomas More. C'était publié aux éditions du Seuil il y a bien longtemps, et c'est suivi des écrits de prison de Thomas More. Oh, j'ai lu ça il y a bien, bien longtemps. Mon Dieu, j'ai lu ça depuis 1953, depuis plus de 40 ans. Un ouvrage magnifique. Hein? Il y a aussi sur Thomas More, je vous recommande ce livre de Louis Bouillet, publié chez CLD à Paris. C'est Sir Thomas More, humaniste et martyr. C'est paru il y a déjà de nombreuses années, en 1984. C'est pas très long, ça se lit bien, c'est une centaine de pages. Je vous le recommande fortement. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et un autre que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est publié aux éditions du Centurion il y a déjà une quinzaine d'années, en 1979. C'est un très beau livre, Thomas More ou La conscience d'un saint. C'est un essai biographique de Walter Nigg. Il y a 48 illustrations en couleur. Puis il y a des extraits de la biographie de Thomas Stapleton qui date de 1588. Il y a des lettres de Thomas More, puis il y a des notices des contemporains. C'est traduit en français. C'est très, très bien fait. C'est pas très long à lire et c'est remarquable. Il y a même des facsimilés de l'écriture de Thomas More. Donc, deux grands saints, Saint John Fisher et Saint Thomas More, qu'il faut vénérer avec beaucoup de tendresse pour nos frères anglicans qui... Eux-mêmes, surtout dans la haute église d'Angleterre, qui sont très près de la foi catholique, et ils ont une grande admiration pour ces deux saints, chose étonnante. Maintenant, nous allons parler d'un très, très grand saint. C'est saint Paulin de Nol, absolument inconnu, et pourtant, quand vous entendrez le récit de sa vie, vous serez étonné qu'on n'en parle pas davantage. Il était originaire de Bordeaux, en France. Et il était un des membres les plus illustres de l'aristocratie. Il a vécu il y a très longtemps, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Il est mort en l'an 431. Mais c'est très, 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 très important pour l'origine de la forte foi chrétienne en Europe, dans toute l'Europe. Occidentale, l'Europe latine. Très, très, très important. C'est un très grand propriétaire. Il possède des villas, des domaines, partout. Il a épousé d'ailleurs une femme très, très riche qui s'appelait Thérèse, une Espagnole. Et ensemble, ils ont décidé de renoncer, après le décès à l'âge de 8 jours de leur seul enfant, un surfils, ils ont renoncé à tous leurs biens. Ils ont abandonné une carrière extrêmement importante. Ils ont abandonné même leur patrie pour aller vivre ailleurs. Ils ont abandonné leurs amis. Ils ont mené des vies d'ascètes à Nol, ou Nola, N-O-L-A en italien. C'est en Campanie. La Campanie, c'est la région, mon Dieu, de Naples, dans le sud de l'Italie, quoi. Et c'est une conversion, ça... qui s'inscrit là, vraiment dans le grand mouvement qui touche l'aristocratie européenne à la fin du IVe siècle. Et cette conversion de Paulin de Nol a eu un immense retentissement dans le monde romain. Bon, imaginez là, si aux États-Unis, on avait eu la conversion, disons, de Henry Ford, de Rockefeller, ici au Québec, sans attendre, sans parler en mal de M. Pierre Desmarais, mais si Pierre Desmarais, ou un des plus grands propriétaires d'édifices, des gratte-ciels et de flottes, de navires et de toutes sortes de choses, se convertissait et donnait tout ça aux pauvres. Je vais vous donner un exemple de ce que possédait Paulin de Nol. C'est extrait, ça, de Charitable de tous les temps, ce beau livre publié chez SOS. Je vous en ai parlé l'autre jour. C'est écrit par une bénédictine. Et elle, qui s'appelle sœur Thérésia Rodin. Son frère était évêque, je crois, d'ailleurs. Et alors, c'est un livre qui n'est pas très, très ancien. Ça date d'une quinzaine d'années. Et alors, elle dit à un moment donné... Saint Paulin de Nol, qui est né à Bordeaux en 353, de la famille romaine des Anicius. Tout jeune, il hérite des biens paternels, plutôt des royaumes que des biens, dira le poète Ozone, son précepteur, car il avait un précepteur, un très grand poète, Ozone, très très réputé à l'époque. Bon. Par son mariage avec une Espagnole, Thérèse, Paulin de Nol augmente encore ses richesses. Avec le domaine en Espagne qu'elle apporte en dos, en cadeau de mariage. L'Aquitaine, l'Espagne, l'Italie, partout, Paulin possède d'immenses propriétés, des villas. L'auteur, cette bénédictine, ajoute, que représentait alors une villa gallo-romaine? Que représentait vraiment ces villas, eh bien, ça représentait des centaines d'hectares de prés, de bois, des vignes, des troupeaux, des fermes. Et parfois, si la villa bordait la mer, ça comprenait une petite flotte de navires et des centaines de domestiques, des esclaves, des familiers. Paulin voyage d'un pays à l'autre, car il gère ses biens. Il est illustre à cause de tout ça. Il y est encore plus par sa culture, en plus. Son savoir, les honneurs qui lui sont décernés par l'empereur, car à 27 ans, il est nommé consul. L'empereur Valentinien le retient quelque temps à sa cour, à Rome. Et arrivé au fait de la gloire, il ressent un appel vers un détachement. Est-il chrétien? De cœur, oui, c'est sûr, mais il n'est pas encore baptisé. Il connaît le christianisme, il ne s'est pas fait baptiser. Et ce n'est qu'à 38 ans qu'il reçoit le baptême à Bordeaux, sa ville natale. Et très tôt après, il reçoit la prêtrise. C'est en Catalogne qu'il reçoit la prêtrise. Lui et sa femme ont tout vendu. C'était une fortune immense, tout donné aux pauvres. Il est mort pauvre. C'est absolument phénoménal. Hein? Alors, des hauts personnages, à ce moment-là, ont crié au scandale. Et qu'il s'est installé à Nole, près de Naples, on s'est pressé pour voir cet homme qui avait complètement changé d'existence. Il avait renoncé à la vie conjugale, même il pratiquait avec celle qu'il appelait maintenant sa sœur, Thérèse, sa femme. Il pratiquait la continence. Vous direz, mais c'est étrange, qu'est-ce que c'est que cette idée? Eh bien, sachez que dans ce siècle, ça s'est vu, hein? Le marquis de Vogüé et sa femme sont entrés en 1956 dans des monastères. Homme très très riche aussi. Mon Dieu, Maritain, Jacques Maritain et sa femme, Raissa Maritain, ont pratiqué la continence, même dans leur mariage. Alors, lui, il considérait cet idéal de la continence comme un grand idéal chrétien. Heureux est l'homme qui mène une vie séparée des foules impies, qui ne demeure pas parmi les pécheurs, et qui ne s'assied pas dans la chair des méchants, mais qui fixe tout son être dans la gloire de Dieu. Tel fut le renoncement de Paulin, qui a fui le monde pour suivre Jésus-Christ. Son œuvre est considérable. On a accordé de lui 33 poèmes, 51 lettres, qui sont recensées dans le Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est une espèce d'ensemble d'écrits des écrivains ecclésiastiques latins. Et on les retrouve dans la patrologie de Ming, dont je vous ai déjà parlé. C'est une collection immense. Et voilà que ces écrits qui sont encore à lire sont vraiment très intéressant. C'est le fils d'un Pontius Paulinus. Pontius, ça vous rappelle Ponce Pilate, n'est-ce pas? Pontius Paulinus, un chrétien. Il est très riche. Très, très, très riche, comme je vous ai dit. Hein. Et c'est son maître, Ozone, qui a donné à Paulin une éducation littéraire, puis une culture extrêmement importante. Hein. Il a cultivé surtout la poésie comme son maître. Et la carrière politique de Paulin est extrêmement brillante. En Italie, il est magistrat. Il entre au Sénat. Il obtient un consulat, donc avant 379, à 27 ans. Puis, il exerce la charge de gouverneur de Campanie, où il ira vivre plus tard, hein, dans la région de Naples. Il revient donc en Aquitaine et puis il se rend ensuite en Espagne. C'est là qu'il a épousé, comme je vous ai dit, cette femme très très riche, Thérésia, qui lui a apporté des grands domaines. Alors, établi en Aquitaine, là, il mène pendant quelques années la vie d'un immense propriétaire. Il partage son temps entre la surveillance de ses domaines, la poésie, l'éloquence. Et puis, il échange des lettres et des cadeaux avec ses amis, les gens les plus cultivés du monde, connus à l'époque, dont Sulpice Sévère, qui est alors un jeune avocat. Hein, j'en ai parlé de Sulpice Sévère. Alors là, Paulin place pendant son séjour en Aquitaine le début d'une conversion spirituelle qui l'amène à considérer là, vraiment comme stérile toute cette vie mondaine. Et là, c'était... Il rencontre aussi, il faut dire, Martin de Tours, le fameux saint Martin de Tours à Vienne. Ça le touche beaucoup, ça. Et on dit que c'est peut-être à cet endroit que Martin aurait guéri Paulin d'une maladie des yeux. Alors, il y a aussi des relations avec Ambroise de Milan, qui sont plus ou moins bien connues. Et puis, il se fait baptiser finalement À 35 ans. Il vit à Saragosse, ou à Barcelone, ou encore à Tarragone. Ça, c'est surtout en Espagne, n'est-ce pas, près de la frontière française d'aujourd'hui. Alors, pendant son séjour, il perd là son fils unique, dont je vous ai parlé, à l'âge de 8 jours. Et puis là, il progresse dans la conversion. Puis il écrit des poèmes à son maître Ozone. Il déclare avoir fait le vœu d'une vie plus spirituelle. Alors, là, à un moment donné, il est menacé de poursuites judiciaires puis de confiscation de ses biens. Mais finalement, contre son gré, ben, il est ordonné prêtre à Barcelone par l'évêque. Le 25 décembre, le jour de Noël, 393, il a 39 ans. Il obtient de ne pas être attaché à l'église de Barcelone. Il se veut un prêtre libre. C'était exceptionnel à l'époque. Et il a déjà pris la décision de se retirer à Nol, auprès du tombeau de Saint-Félix, dans le sud de l'Italie. Mais il passe par Rome, il se heurte à une campagne de malveillance qui est menée par le clergé romain contre lui, parce que il s'est pas attaché à un diocèse. Il est en dehors des règlements, hein. Alors, le pape même l'ignore ostensiblement parce qu'il n'est pas attaché à un diocèse. Il subit les critiques de l'opinion païenne aussi, qui sont terrifiés devant ce mépris des biens du monde. Et les grands personnages aussi le méprisent puisqu'il a tout sacrifié. Alors à Nol, finalement, à Nola, dans cette petite ville, il établit une communauté auprès du tombeau, comme je vous ai dit, du martyr Saint-Félix. Il organise une vie commune d'ascèse, des moines, puis il reçoit un accueil favorable là, du clergé, des moines et des représentants de l'administration. Là, les évêques de la région de Naples, de Campanie, viennent le visiter personnellement. Ils lui envoient des messages. Alors là, toute sa réputation se fait beaucoup mieux. Et puis, il est finalement admiré par à peu près tout le monde. Il reçoit d'innombrables visites. Paulin de Nol a cherché à maintenir par des échanges, des écrits, des lettres, les relations qu'il avait déjà. Puis il veut s'en créer de nouvelles. Hein. Il veut vraiment rayonner dans sa foi. Il veut vraiment amener au Christ et à la foi chrétienne le plus de gens possible. Et il pense que le monde a besoin vraiment de lumière. Parce qu'il trouve que les gens ne s'avancent pas suffisamment dans la voie de la perfection. Il s'adresse à des personnages illustres de la chrétienté, à saint Augustin, à saint Jérôme, à Sulpice Sévère, que l'on appelle parfois saint Sulpice Sévère, mais aussi à d'humbles fidèles tout à fait inconnus. Et dès son arrivée à Nol, alors là, il répond à différentes personnes, on a les lettres, et puis il répond aussi à saint Augustin, qui n'est que prêtre à l'époque. Il correspond donc avec saint Jérôme, auquel il adresse un panégyrique de Théodose, l'empereur Théodose. Il reste en relation avec saint Ambroise de Milan. Et puis, qui lui envoie d'ailleurs, c'est assez curieux, des reliques de saint Gervais et saint Protais dont je vous ai parlé il y a quelques jours. À Nol, donc, Paulin est le gardien de l'église et du tombeau de saint Félix. Il est grand bâtisseur, il restaure l'ancienne basilique. Il ajoute une cinquième église, une basilique à 3 nefs orientée vers celle de Félix et non vers le levant comme on devait faire d'habituellement. Et son abside, là, qui est en 3 parties, était décorée d'une mosaïque représentant la Trinité. Il a une profonde foi en la Trinité. Il fait édifier un baptistère, des cours, des portiques. Les constructions commencées en 401 sont inaugurées simplement 3 ans plus tard. Paulin a fait ériger aussi une basilique à Fondi, dont l'abside était décorée encore d'une trinité. Et la fin de sa vie, bien, elle est moins bien connue. Et dans ce grand ouvrage que l'on appelle « La cité de Dieu » de saint Augustin, saint Augustin le qualifie d'évêque de Nol, donc il est devenu évêque. Il loue l'héroïsme de Paulin de Nol. Saint Augustin l'admire beaucoup. Bien qu'il ait été prisonnier des barbares qui ont envahi Nol, Paulin faisait cette prière, « Seigneur, que je ne sois torturé ni pour mon or ni pour mon argent, car où sont tous mes biens, vous le savez ?» Il avait tout sacrifié. On a le récit émouvant de la mort de Paulin de Nol. Il souffre d'une douleur de côté. Il garde toute sa connaissance. Et 2 jours avant sa mort, 2 évêques lui ont rendu visite. Il célèbre avec eux la messe, et puis il a rappelé dans la communion tous ceux qu'il avait écartés. Il demande où étaient ses amis Janvier de Naples et Martin de Tours. Puis il entend un psaume. Et c'est Saint-Janvier de Naples, n'est-ce pas, le fameux sang de Saint-Janvier qui bouillonne le jour de la fête de Saint-Janvier chaque année. C'est un miracle assez étrange. Et Saint-Martin de Tours, très, très, très grand saint dont on parlera un jour. Hein. Il se demande où sont ses amis, car ce sont de grands amis pour lui. Il reçoit ensuite la visite d'un prêtre, et puis... Là, il médite toute la journée du 22 juin, il a célébré les matines, il a rassemblé ses prêtres, les diacres, tous les autres clercs. Il leur adresse des paroles de Dieu et de paix. Et puis, à la fin de la journée où il a bien médité, il prie, il récite le verset d'un psaume et vers la quatrième heure de la nuit, n'est-ce pas, vers 10 heures, quoi, le 22 juin, il meurt en 431 à 77 ans et dès son vivant, Paulin est très souvent cité comme modèle de sainteté. Et selon Martin de Tours, Saint Martin de Tours, il est presque le seul à pratiquer les préceptes de l'Évangile.